Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, à Chronique pour la paix, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur la disparition d'Amos Oz, lui qui nous a inspirés si souvent. C'est un écrivain phare de la littérature hébraïque, un grand citoyen de l'État d'Israël et un homme engagé en faveur du dialogue israélo-palestinien qui nous a quittés. Amos Oz a écrit plus d'une quinzaine de livres, dont Mon Michaël, qui l'a fait connaître en 1968, et Une histoire d'amour et de ténèbres, qui est certainement son chef-d'œuvre. Il a également rédigé plusieurs essais, dont Comment guérir un fanatique en 2006. L'œuvre d'Amos Oz a été largement récompensée au niveau international. Il a reçu le prix Israël de littérature en 1998. Pour nous parler d'Amos Oz, évoquer sa mémoire, nous avons invité Jean-Luc Alouche. Jean-Luc Alouche a été journaliste et rédacteur en chef à Libération. Il a passé 5 années en tant que correspondant de ce journal en Israël. Il est le traducteur en français de plusieurs grands auteurs israéliens et il a travaillé sur plusieurs textes d'Amos Oz. Jean-Luc Alouche, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Luc Alouche. Nous allons parler d'Amos Oz. Alors, là, vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, Amos Oz ?
J'ai croisé son chemin à plusieurs reprises, mais je conserve le souvenir de deux longues rencontres dans ces deux, je dirais, refuges préférés. L'un dans les années 80 au kibbutz Hulda, et l'autre beaucoup plus tard, lorsque j'étais déjà à Libération, dans son antre d'Arad, où il séjournait à cause de la maladie, l'asthme de son fils, dans les deux circonstances, pour deux longues journées passées à l'interviewer. Et par ailleurs, à Paris ou en Israël, pour lui servir occasionnellement d'interprète.
Donc vous le connaissez bien. Je voudrais que vous parliez de son œuvre un petit peu, car c'est l'essentiel pour Amos Oz. Qu'est-ce que vous considérez que c'est le plus grand écrivain d'Israël ? Est-ce qu'il est plus grand qu'Agnon ou que David Shahar ? Ou que d'autres peut-être ?
Mais écoutez, je me garde d'établir des hit parades des écrivains. Je pense que c'est bon pour les listes de best-sellers. Mais il ne fait pas de doute que Amos Oz possède une singularité qui n'appartient vraiment qu'à lui. Pourquoi ? Je crois que le président Rivlin, lors de son éloge funèbre, a employé une très jolie image. Il l'a qualifié d'allumeur de réverbère. Cet homme dont la tâche est d'allumer, d'éclairer les passants leur parcours dans les rues. Et je pense qu'Amos Oz était cet allumeur de réverbère tout au long de l'histoire, la jeune histoire d'Israël, parce qu'il a été au point de rencontre, au carrefour des grands événements de cet État. Et pour moi, la première lumière qu'il a allumée, c'était au lendemain immédiat de la guerre des Six Jours, avec cette œuvre dont il a été la cheville ouvrière, qui s'appelait Siyah Lohamim, le dialogue des combattants, qui est un moment phare, parce que ces jeunes qui avaient, pour la plupart d'ailleurs, des membres des kibbutzim, qui avaient participé à la guerre et à la victoire de 67,
il avait été lui-même au Nahal,
à la fois leurs doutes et leurs espérances. Et depuis, à travers la guerre du Liban, la guerre de 73, la guerre du Liban et les conflits qui entourent la vie d'Israël, il a toujours été là pour poser des jalons, que ce soit dans ses romans, dans ses essais ou dans ses articles de presse. Ça a été vraiment une sorte d'éclaireur. Alors, par ailleurs, il faut bien dire que, comme on dit vulgairement, il coche toutes les cases. Il est beau. Il est éloquent, C'est un ancien kibboutznik et par-dessus tout, il a un maniement, une pratique, un amour de la langue hébraïque à nul autre pareil. Et donc avec lui, très certainement, c'est un quelqu'un qui a été le parangon, je dirais même peut-être le cliché du sabra mythique. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, il va nous manquer.
Parlons un peu de ces livres. D'après vous, quels sont les livres qu'on doit lire quand on ne connaît pas Amos Oz? Quel est le livre que vous préférez?
À mon sens, il faut tous les lire. Mais bon, vous avez cité à juste titre une histoire d'amour et de ténèbres qui est en effet, je dirais, ce qui résume, sinon une vie, du moins l'essence de son œuvre et à partir aussi à la fois de sa description de sa Jérusalem d'enfance, une Jérusalem modeste et plutôt encore laïque, sa famille, une famille extrêmement prestigieuse. Il est quand même le petit-neveu de Joseph Glosner, qui est un des grands intellectuels issus de la droite sioniste, et l'événement traumatique du suicide de sa mère. Donc ce roman est bon. Je crois que Yossi Sarid en parlait comme du Dostoïevski juif, c'est tout à fait vrai, c'est une œuvre dostoïevskienne.
Absolument. Il y a l'ombre de la Shoah dans ce livre aussi.
Aussi, bien évidemment. Mmh. Et le kibboutz.
Et le kibboutz, oui. Absolument.
Il faudrait citer son œuvre première qui donne le signal de sa carrière, c'est Michael Shelley, Mon Michael, qui met en place aussi la plupart des œuvres, des thèmes qu'il abordera. Pour ma part, j'ai une affection particulière pour son livre « Pauvre Cham Beret Israël », c'est-à-dire « Ici et là » en terre d'Israël, qui a été traduit en français sous le titre « Les voix d'Israël ».
Dites-moi.
Et là, Amos Oz est le premier, sur une série de d'autres écrivains comme David Grossman, à prendre son bâton de pèlerin et à traverser tout le pays du nord au sud et dans toutes ses strates, dans toutes ses couches, où il raconte ce pays, loin de son cabinet d'écrivain. Il va à la rencontre des populations d'Israël. Ce livre date de 1983. Et où il raconte cette Israël que les gens ne connaissent pas, que ce soit les ultra-orthodoxes, les séfarades des villes de développement, les colons dans les territoires. Et il en raccorde un portrait qui, de 1983 à aujourd'hui, n'a pas beaucoup changé et qui, au contraire, s'est, à mon avis, accusé. Donc je pense que c'est vraiment un ouvrage fondamental.
Dites-moi, Jean-Luc Alouche, je voudrais parler avec vous du militant. Il était engagé et il défendait la solution deux peuples pour deux États. Est-ce que vous le considérez comme un pacifiste, un idéaliste aujourd'hui ?
Ah non, je le considère comme un sioniste réaliste. Je veux dire par là que toute son angoisse et toute sa demande d'une solution de ce type, deux États pour deux peuples, à l'instar d'ailleurs de ces deux, je dirais, des autres piliers à la fois de la littérature israélienne et du militantisme pour la paix que sont Avraham Yehoshua et David Grossman, et celui, je dirais, d'un égoïsme sacré, à savoir que pour le bien-être de cette société que l'occupation a corrompu, pour son avenir, il faut une solution où les Palestiniens retrouvent leur dignité, trouvent leur dignité et conséquemment un État souverain. Et cela, Amos Oz l'a dit, dès le lendemain de 1967, à l'instar d'ailleurs de Yeshayahu Leibovitz. Et donc, de cette, je dirais, de cette voie, il n'a jamais dérivé. Comme Yehoshua et Grossman n'en dérivent pas, je dirais que Yehoshua, avec son idée qui sans doute est peut-être plus novateur et plus audacieux politiquement, avec sa dernière idée d'un seul État pour les deux peuples, qui est à mon avis beaucoup plus un ballon d'essai
qu'un c'est une provocation,
un programme politique.
Un peu.
Voilà. Mais de ce point de vue-là, je crois que le cri d'Amos Oz disant « Aidez-nous à divorcer hein, », Israël-Palestine, deux États, maintenant, résume parfaitement sa doctrine. Ça n'est pas un pro-palestinien invétéré, c'est un pro-israélien inébranlable.
Jean-Luc Alouche, est-ce que vous lui voyez une postérité aujourd'hui en Israël ? Est-ce qu'il y a parmi les jeunes écrivains que vous connaissez, il y a des gens qui sont prêts à reprendre le flambeau de ce sionisme, réalisme et de cet amour de la langue hébraïque ?
Je veux dire une chose, il y a deux choses. D'un point de vue, une image m'a frappé, c'est celle de ses funérailles. Je ne parle pas de la partie oraison funèbre, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais lorsque il a été enterré à Houlda,
oui,
et j'ai vu les images des gens qui étaient là, de sa femme jouant de la flûte, et de ses silhouettes tassées par l'âge et les travaux. Et je me suis dit que, avec lui, l'histoire du kibboutz et de cette tentative absolument extraordinaire, prométhéenne, de changer l'histoire, s'achevait avec lui. Ça ne fait aucun doute. Au niveau de la poursuite, je dirais, littéraire et politique de son œuvre, je crains d'avoir les plus grands doutes. Je pense que la littérature israélienne et le militantisme israélien ont changé de nature, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longtemps à expliquer, et que cet amour de la langue qui lui était extrêmement particulier. Je pense que, de ce point de vue-là, il est l'équivalent et la prolongation d'Agnon. Mais la prolongation d'Agnon à Amos Oz, je la vois mal pour cette pratique amoureuse, sensuelle de l'hébreu.
Eh bien, l'émission se termine. Jean-Luc Alouche, je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu avec beaucoup de cœur à nos questions.
Je peux ajouter quelque chose ?
Je vous en prie.
C'est que dans les deux occurrences où je l'ai rencontré très longuement, il m'a donné le sentiment d'être un homme extrêmement généreux, contrairement à beaucoup d'écrivains qui sont souvent très narcissiques. Au bout d'une longue journée de travail, il m'a dit, voilà, moi j'ai beaucoup parlé et j'aimerais savoir qui tu es, toi, et raconte-moi ton histoire. J'avoue que peu d'écrivains sont capables d'une telle générosité. Et Amos Oz s'intéressait et aimait les gens. Voilà,
ok, merci beaucoup, c'est son côté kibboutzique ça. Allez, au revoir Jean-Luc Alouche.
Bonne journée, au revoir.
Chers auditeurs, je vous rappelle qu'un débat sur le rêve sioniste est organisé entre Jean-Pierre Filiou, spécialiste du monde arabe, et Tamar Sebok, correspondante en France du quotidien israélien Yediot Aharonot. L'événement aura lieu au Cercle Ben Al-Azhar, 10 rue Saint-Claude, Paris 3e à 20h30. Shabbat shalom à tous, on se retrouve dans 15 jours, c'était Paul Ouzi Meyerson pour Chronique pour la paix.